Terre de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Game of Thrones ou Black Mirror, Friends ou Mentalist, La Casa des Papel ou Columbo, les séries télévisées sont sur tous nos écrans. Elles nous réconfortent, nous instruisent, nous indignent, nous angoissent. Elles nous accompagnent les jours de pluie, comblent nos nuits d'insomnie ou font rire toute la maison à l'heure du repas. Avec à chaque fois des questions qui nous maintiennent les yeux grands ouverts. Qui est le meurtrier? Quel homme va-t-elle choisir? Qui finira par monter sur le trône? Et plus besoin d'attendre le jeudi soir devant la télé pour connaître la réponse. L'essor des plateformes de streaming, Netflix, Amazon Prime, OCS et bien d'autres permettent de tout visionner d'un coup. Nos pratiques changent, nos goûts aussi, mais que révèlent-elles de nos sociétés? Pour en parler avec nous, Clément Combes, sociologue et co-auteur d'une enquête sur les pratiques et les goûts des Français pour les séries télévisées, et au téléphone avec nous, Marianne Chaillan, professeure de philosophie à Marseille et autrice de plusieurs ouvrages sur la pop culture et les séries. En début d'émission, une escale en Corée du Sud s'impose, nous parlerons évidemment de Squid Game, la série à succès du moment avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Roca. Appelez-nous dès maintenant pour nous parler de vos séries préférées, de vos rituels de visionnage. Le numéro WhatsApp, c'est le 337 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Bonjour Clément Combes.
Bonjour.
Et bonjour à vous Marianne Chaillan.
Bonjour Amélie.
Alors vous avez tous les deux décortiqué les habitudes de consommation des Français en matière de séries ou analysé leur contenu et ce qu'ils révèlent de nous. Et on va essayer de faire le tour de plusieurs séries emblématiques ensemble à partir de ce que les auditeurs apprécient. On va d'ailleurs commencer avec deux témoignages reçus sur le WhatsApp de l'émission. Écoutez.
Bonsoir RFI, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, moi j'adore ces séries d'action parce qu'elles me fascinent tout simplement. De voir comment les enquêtes font pour arrêter les suspects et tout ça, ça me fascine énormément. Les séries de meurtres, quand je les regarde, c'est plein d'actions, je n'arrive pas à comprendre moi-même. C'est juste que je les adore comme ça. Ça me rappelle mon père parce qu'il était militaire. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des raisons vraiment valables pour que je les regarde. C'est juste qu'ils me plaisent, c'est tout. Je me dis que quand je serai grande, j'aimerais devenir comme ces enquêteurs dans ces films pour pouvoir élucider des monstres et tout ça.
Je salue toute la communauté de 7 milliards de voisins. Mon nom c'est Jules, depuis Lomé. En fait, moi j'aime les séries médecine et les séries policières. Parce que dans ces séries-là, il y a toujours une leçon de morale à tirer. Par exemple, ils nous montrent souvent que les décisions que nous prenons dans notre vie peuvent affecter aussi nos proches, quoi. Pas seulement nous. Et pour les séries que j'aime, il y a des 5-0, des Good Doctor, des Mentalist, des Night Shift, etc. Merci beaucoup.
Alors des séries policières, effectivement, il y en a un paquet. Hein. Maigret, Columbo, Derrick, NCIS, Les Experts, Esprit Criminel, Cold Case. Clément Combes, est-ce que c'est un genre qui est particulièrement apprécié et particulièrement représenté?
Alors oui, dans l'enquête qu'on a menée avec mon collègue Hervé Glevarek, on a montré que c'était le genre plébiscité par les Français. Alors le cadre de l'enquête, c'est les Français de plus de 18 ans en France métropolitaine. Hein, dans ce cadre-là, représentatif de la population métropolitaine française, oui, c'est de loin le plus plébiscité et le plus présent sur les chaînes télé.
Marianne Chaillan, qu'est-ce que ça raconte sur nous, à votre avis, ce goût pour l'enquête dont on suit la résolution ?
Je ne sais pas, en écoutant votre première auditrice et sa fascination donc pour les séries policières, je me disais qu'elle a le même plaisir que moi et qu'un personnage de littérature, mais aussi qui a été adapté en série télévisée, Hercule Poirot, elle aime faire fonctionner ses cellules grises et on a un plaisir comme ça à essayer de résoudre des énigmes. Mais elle parlait aussi de quelque chose d'important, elle disait qu'elle voulait devenir comme ces gens qu'elle voyait à l'écran et donc il y avait une forme de personnages qui s'imposent à nous comme des modèles. Et ça, c'est une idée très intéressante de votre auditrice.
Alors avant, les séries, elles nous tenaient également en haleine parce qu'elles créaient une sorte d'attente, un épisode par semaine. C'est encore vrai pour certaines séries qui sortent épisode par épisode. Évidemment, je pense ici à la sortie de Game of Thrones. Mais avec les plateformes de streaming, tout est disponible d'un coup. Alors pourquoi est-ce que ça continue de nous plaire autant, Clément Combe, pardon.
C'était pas le seul levier qui faisait que les séries nous plaisaient. On a toujours aimé les histoires et les histoires au long cours. Un des ressorts que devaient mettre les chaînes en place, c'était celui du cliffhanger.
Donc le suspense.
Le suspense. De fait, maintenant, on n'est plus obligé d'être à chaque fois suspendu à la falaise, pour reprendre l'expression littéralement. Mais par contre, le plaisir de s'engager pleinement dans une histoire qui dure des heures et des heures, s'attacher à des personnages qui sont d'autant plus familiers qu'on les suit, qu'on les accompagne, qu'ils nous accompagnent aussi dans nos vies, ça perdure. Et puis le plaisir de ce qu'on appelle aujourd'hui le binge watching, c'est-à-dire cette espèce d'immersion comme ça, mais comme on pouvait connaître depuis longtemps avec la littérature, ça persiste et c'est amplifié par les plateformes qui misent dessus, qui ont compris avant même leur apparition, avant même Netflix, qui ont compris que les spectateurs, les spectatrices aimaient ça à travers le peer-to-peer, le téléchargement et le streaming à l'époque illégal.
Est-ce que ça concurrence le visionnage de films ? On en regarde de moins en moins et de plus en plus de séries ?
Alors ça, oui, ça vient concurrencer un certain nombre de pratiques, le visionnage de films, la littérature aussi, mais ça vient pas écraser ces deux pratiques. Mais bien sûr que ça, les séries sont venues se faire une place au milieu de ces différentes pratiques plus antérieures.
Alors on va faire un premier voyage en Corée du Sud, là où se situe l'action d'un des plus gros succès du moment.
Un, deux, trois, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin.
Attention, que le jeu commence.
Attention, un, deux, trois, soleil.
Joueur 324, éliminé.
Tu t'es fait avoir, crétin. Hein? C'était quoi ça?
Alors vous avez évidemment reconnu Squid Game, le jeu du calamar en français, qui aurait attiré 111 millions de téléspectateurs selon les estimations de Netflix. Difficile d'être passé à côté de ce phénomène. On connaît l'histoire, plusieurs centaines de candidats endettés jusqu'au cou qui s'affrontent jusqu'à la mort dans une série de jeux enfantins pour plusieurs millions d'euros. Nicolas Roca, bonjour.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Séoul. Quel accueil a été réservé à la série justement en Corée du Sud ?
Eh bien, je parlerai d'un accueil plutôt mitigé, parce que si la série a été numéro un quelques temps, elle a ensuite été détrônée par Hometown Cha-Cha-Cha, une comédie romantique, un drama plutôt classique. Mais l'ampleur du succès n'a pas laissé les Sud-Coréens indifférents. Le talkona, le gâteau au sucre que les candidats doivent découper dans la série, a connu une seconde jeunesse alors qu'il était un peu passé de mode. Plusieurs vendeurs de rue se sont mis à confectionner la sucrerie et un vieux couple qu'il faisait déjà depuis des décennies a vu ses ventes exploser. Il y a aussi ces syndicalistes qui, lors d'une manifestation, ont revêtu l'uniforme des méchants dans Squid Game et des références de la série ont été utilisées par certains politiciens. Et puis, pour le week-end d'Halloween, les rues des quartiers festifs de la capitale étaient littéralement remplies de personnes qui arboraient le costume des candidats, de la poupée que l'on a entendue dans l'extrait que vous avez diffusé, ou bien des gardes dans la série.
Alors même si le succès de la série est global, les caractéristiques des personnages, eux, sont tout de même très propres à la Corée du Sud.
Oui, exactement. Tous les personnages, vous l'avez dit, sont endettés. C'est une des caractéristiques du pays, une dette publique très faible et un taux d'endettement des ménages assez élevé. Il a même explosé récemment pour être désormais supérieur à 100% du PIB. Et puis, les personnages sont des figures des classes populaires sud-coréennes, des parias, à l'image d'Ali, l'immigré pakistanais qui représente ces travailleurs illégaux qui ont d'énormes difficultés d'intégration. Idem pour la réfugiée nord-coréenne. Plus de 33 000 personnes ont quitté le voisin du nord et sont parvenues à rejoindre le Sud avec une réalité pas forcément très rose lors de l'arrivée, comme on le voit dans la série. Enfin, le héros, interprété par Lee Jung-jae, a une histoire lui aussi extrêmement coréenne, puisqu'il a été licencié d'une entreprise automobile qui rappelle le précédent de SsangYong Motors, qui a initié un vaste plan de licenciement. Les grèves des salariés avaient été réprimées très violemment par la police, comme ce que l'on voit dans Squid Game. Et cette proximité avec la réalité de son pays, elle est assumée par le réalisateur Hwang Dong-hyuk. Cette compétition morbide mise en scène dans la série, c'est un reflet assez puissant de la concurrence très, très intense qui existe en Corée du Sud, que ce soit à l'école ou bien aussi dans le monde du travail.
Mais ça, c'est assez paradoxal. D'un côté, c'est une histoire très coréenne, mais en même temps, le propos, lui, il est très universel.
Et oui, car c'est une histoire d'inégalité, c'est l'une des caractéristiques des produits culturels sud-coréens, et c'est aussi ce qui explique en partie leur capacité à s'exporter. Si depuis 20 ans, ce que l'on appelle la Korean Wave, la Hallyu, se répand petit à petit, elle a changé de forme en deux décennies. Initialement, elle était promue, elle était contrôlée par les autorités, et puis elle s'est diversifiée. Et on le voit, les œuvres les plus récentes, les œuvres sud-coréennes à succès, sont surtout des critiques sociales. On pense à Parasite, qui représente une réalité assez dure de la société également. Et c'est un phénomène avec lequel les autorités sud-coréennes ont du mal à s'accommoder. Écoutez ce qu'en dit Benjamin Joanneau, qui est professeur d'anthropologie culturelle à l'université Hongik de Séoul et spécialiste de la Korean Wave.
Je pense que les autorités sud-coréennes sont en général assez mal à l'aise avec le succès d'œuvres comme Parasite ou même Squid Game, qui montrent une dimension plus refoulée, plus violente de la société sud-coréenne. Et en fait, je pense que c'est intéressant de voir que en fait, ce n'est pas un seul mouvement uni, que derrière tout cela, il y a des producteurs qui n'ont pas le même agenda que, par exemple, les institutions qui récupèrent ces produits pour en faire un soft power, et qu'il doit certainement y avoir des personnes mal à l'aise vis-à-vis du succès international de Squid Game.
Oui, et ce malaise, même le grand ennemi nord-coréen a réussi à en profiter finalement, puisqu'il a critiqué assez ouvertement les dérives du libéralisme économique sud-coréen qui sont exposées par la série.
Alors vous qui connaissez bien la série, Nicolas, est-ce que vous avez des infos sur la sortie d'une éventuelle deuxième saison ?
Alors, ce que le réalisateur a annoncé initialement, c'est que il n'avait pas prévu de deuxième saison. On sait qu'il a mis beaucoup de temps à faire sortir la série parce qu'elle a été refusée à de nombreuses reprises par les productions sud-coréennes. Et finalement, c'est Netflix qui l'a accepté. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, mais on sait que souvent, quand même, Netflix, quand il connaît une de ses séries, connaît un large succès. Ils ont plutôt envie de voir une deuxième saison.
Merci beaucoup Nicolas pour ces précisions. Vous êtes une belle journée à Séoul et un très joyeux anniversaire.
Merci beaucoup Amélie, bonne émission à vous.
Marianne Chaillant, quel regard est-ce que la philosophe que vous êtes porte sur la série Squid Game ?
Écoutez, alors c'est vrai que spontanément on voit cette parabole sur la société coréenne, mais ça c'est pas un regard philosophique. Alors j'ai essayé de me demander si ce succès universel dont vous parliez n'est pas simplement coréen, était dû au fait qu'il y avait des messages philosophiques susceptibles de toucher par-delà les pays. J'ai tenté plusieurs interprétations et j'ai beaucoup lu d'articles. On a dit que c'était une sorte de reprise du thème de la banalité du mal qui est développé par Hannah Arendt et que on assistait là à une forme de... Voilà, on nous montrait que n'importe quel homme était capable de commettre des actes atroces. Et je crois pas du tout que cette lecture marche. On a aussi dit que cette série était une parabole du système capitaliste. J'ai beaucoup lu ça. Je suis pas convaincue. En fait, la seule lecture qui me paraît tenir le coup, c'est de se dire que la série pose une question sur la nature humaine. En fait, Squid Game montrerait que loin de l'image de l'enfance comme quelque chose de... Pardon, excusez-moi. Loin de l'idée que l'homme soit un être bienveillant, animé par l'amour de son prochain, on verrait dans cette série que il y a une loi du plus fort qui règne entre les hommes, que l'homme est un loup pour l'homme. Voilà cette thématique qu'on doit au philosophe Hobbes. Et donc, ça serait cette idée que la nature humaine, voilà, elle n'est pas très belle. Si c'est ça la réflexion philosophique, et c'est la seule que je sois arrivée à percevoir dans la série, je me dis que c'est pas nouveau déjà. Hein. On a vu ça dans les Hunger Games, par exemple, cette idée que l'homme soit une bête sauvage égoïste. Vraiment, c'est pas voilà. Alors, je me dis, la seule lecture philosophique qui tient de la route n'est pas nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Et je me dis, ça tient peut-être à la cruauté qu'on voit dans cette série. Terrible. Je suis j'ai beaucoup regardé Game of Thrones, dont on avait, voilà, qui avait fait beaucoup de bruit pour sa violence. On avait reproché à cette série d'être hyper violente.
Je sais pas si vous vous rappelez. On en parlera effectivement dans quelques instants. Oui, ça avait fait.
Voilà.
Une sacrée polémique.
En fait, la violence dans Game of Thrones me paraissait tout à fait justifiée. Dans Squid Game, je ne vois pas de justification à la violence. Et alors, ça m'interroge plus sur les spectateurs. Je trouve que cette série nous interroge plus, non pas sur elle-même, parce que je trouve qu'elle est pas si riche que ça. Mais en retour, elle nous interroge sur nous-mêmes. Pourquoi nous nous laissons sidérer et fasciner par un spectacle aussi violent et d'une violence aussi gratuite ? J'ai l'impression que d'une certaine manière, Netflix a réactivé le plaisir pris au jeu du cirque et que nous sommes les spectateurs de ces jeux du cirque et c'est assez terrifiant.
Alors l'un des spectateurs justement qui nous a envoyé un message sur Facebook, Benjamin de Lomé au Togo, alors lui il est au 7e épisode donc on va essayer de... De toute façon, on va essayer pendant toute cette émission de ne pas divulguer quelques secrets, que ce soit sur ces séries et sur ce qui arrive ensuite. Il dit que lui, dans Squid Game, ce qu'il aime, c'est la façon dont la série parle de l'argent et qu'il a retenu deux choses. La première, l'argent est important pour se faire respecter et bien prendre soin de sa famille. La deuxième, l'argent n'est pas important quand il s'agit d'ôter une vie d'autrui pour en avoir. Donc la fin ne justifierait pas... les moyens. Vous, Clément Combes, vous avez vu la série ?
Oui, je l'ai vu, oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, personnellement ?
Alors là, c'est le spectateur qui parle.
C'est le spectateur qui parle.
Le sociologue, j'ai plutôt bien aimé. Je suis pas persuadé d'avoir vu ce qu'on pourrait appeler aussi du trauma porn, c'est-à-dire une violence gratuite, comme on peut en voir dans beaucoup de séries, et notamment... pour ma part, ce que j'ai souvent perçu dans, par exemple, Game of Thrones. Donc, ouais, j'ai plutôt aimé. J'espère qu'il y aura une deuxième saison parce que ça appelle, enfin, la fin appelle une deuxième saison. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a un peu frappé, si j'essaie de reprendre un petit peu mes lunettes de sociologue, c'est l'espèce d'effet d'emballement autour de cette série qui, bon, n'a pas fait l'objet de la part de Netflix d'une campagne de communication particulièrement forte. Mais par contre, j'ai assez vu un emballement journalistique. Et pour preuve, j'ai été assez vite contacté par plusieurs rédactions pour parler de ça. Et j'ai l'impression que c'est une espèce de petit mouvement comme ça. À la fois, bon, c'est un succès public, bien sûr, mais bon, Casa de Papel est en train de baisser, de lever le pied. Il y a eu Game of Thrones et il nous manquait une nouvelle série sur laquelle s'emballer.
Il y avait une place à prendre.
Et alors, bon, tout un ensemble de raisons qui font que c'est celle-là, et là, je suis pas le mieux placé pour en parler. Mais en tout cas, il m'a semblé qu'il y avait peut-être une espèce de...
Un écho médiatique qui aurait contribué à l'emballement public.
J'ai l'impression.
Alors, une autre série à succès dont vous avez justement parlé et dont on ne pouvait que parler aujourd'hui, c'est celle-ci.
Un oiseau moqueur. Ainsi, vous avez créé votre propre emblème.
Oui.
Approprié pour un homme qui s'est fait lui-même et qui a tant de chansons à chanter.
Content que vous l'aimiez. Certaines personnes ont la chance d'être nées dans la bonne famille. D'autres doivent trouver leur propre voie.
Jadis, j'ai entendu une chanson qui parlait d'un garçon aux moyens modestes. Il entra au service d'une famille très très haut placée. Il tomba amoureux de la fille aînée. Hélas, elle n'avait Dieu que pour un autre.
Lorsque des filles et des garçons vivent dans la même demeure, cela peut créer des situations délicates. On m'a dit que parfois, entre frères et sœurs, il se développe même certaines affections. Et quand ces affections deviennent de notoriété publique, alors là, c'est une situation délicate, à coup sûr. En particulier dans une famille très haut placée. Les familles très haut placées oublient souvent une vérité toute simple. J'ai pu le remarquer.
Et quelle est cette vérité ?
Le savoir, c'est le pouvoir.
Arrêtez-le ! Tranchez-lui la gorge. Arrêtez. Attendez. J'ai changé d'avis. Maintenant, relâchez-le. Reculez de 3 pas. Retournez-vous. Fermez les yeux. Le pouvoir, c'est le pouvoir.
Alors, Marianne Chaillant, cette série, vous l'avez reconnue au générique, c'est Game of Thrones. Vous la connaissez bien car vous lui avez même consacré 2 livres. Est-ce que vous pourriez résumer l'intrigue en quelques mots pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vue? Et sans trop en dévoiler surtout.
Ok, alors la série démarre par... alors c'est très dur de résumer Game of Thrones. Ça démarre par... comment dire ? Résumons en quelques mots. Bon, je vais pas dire comment ça démarre. Game of Thrones, c'est la lutte entre plusieurs familles, comme l'extrait l'a montré, chacune essayant de placer sur le trône l'un de ses membres. Tout le monde se dispute le fameux trône de fer. Et ce qui est extraordinaire dans cette série, c'est qu'il y a bien sûr un enjeu politique, hein, qui a les vertus nécessaires pour devenir le monarque des 7 couronnes, mais il y a aussi des enjeux de philosophie morale, parce que chacune de ces familles, à sa manière, est porteuse d'une certaine éthique. Et donc on assiste à des combats, à des jeux du trône, qui sont à la fois extrêmement fascinants d'un point de vue de philosophie politique, mais aussi à des luttes qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue éthique.
Nous sommes aussi, ce qu'il faut préciser dans Game of Thrones, dans un univers fantastique. Alors on pourrait croire que c'est un genre un peu particulier qui pourrait freiner les téléspectateurs. Et pourtant, la série a fait un carton. Qu'est-ce qui a fait le succès de cette série, à votre avis, Clément Combes ? L'univers fantastique a contribué à ça ?
Alors c'est un genre qui est tout à fait plébiscité, notamment par le public en général, mais en particulier par un public jeune. Alors là j'entends jeune au sens très large du terme, disons les moins de 40 ans.
Tout le monde est content.
Moi le premier qui vient d'accéder à 40 ans, je suis encore parmi les jeunes qui aiment le genre fantastique. Non, c'est voilà, la science-fiction, le fantastique et l'horreur sont avec la comédie les genres privilégiés d'un public jeune et d'un public en fait finalement du public le plus intéressé aux séries aux séries contemporaines. Donc ça évidemment que à la fois le côté saga avec énormément de personnages, de la violence, du sexe, tout un ensemble de problématiques aussi existentielles. Tout ça a dû faire le succès de cette série, notamment auprès des moins de 40 ans.
Alors on n'entend pas forcément dans l'extrait, mais on peut légèrement le deviner. Game of Thrones, et puis on l'a dit tout à l'heure avec vous, Marianne Chaillant, c'est aussi une série d'une violence inouïe. Non seulement les personnages se font couper la tête, mais on voit en plus le sang qui gicle et les entrailles répandues partout sur le sol, hein, pour caricaturer. Qu'est-ce que ça raconte de nous, cet attrait pour la violence visible à ce point, le gore ?
Alors pour le coup, et donc manifestement on a une ligne de désaccord sur ça, c'est que Game of Thrones, c'est vrai qu'il y a de la violence, il y en a beaucoup. Moi j'ai trouvé cette série beaucoup moins violente que Squid Game, et pourtant, je rappelle à vos auditeurs sans rien dévoiler, il est vrai que dans Game of Thrones, on assiste à des scènes de viol particulièrement difficiles à soutenir. On assiste à une marche de la honte du personnage qu'on a entendu là tout à l'heure, cette femme Cersei Lannister, marche durant de longues minutes sous nos yeux, nue, sous les cris de haine de sa ville. C'est une scène très violente. On assiste aussi à un sacrifice d'une jeune fille sur un bûcher qui rappelle le sacrifice d'Iphigénie. C'est une scène très dure à soutenir. C'est vrai qu'il y a cette violence dans Game of Thrones. C'est vrai. Mais elle n'est pas là, j'en suis vraiment convaincue. Après, on peut avoir des désaccords, mais elle n'est pas du tout là pour aller chercher le buzz ou créer l'effroi. Elle, vraiment, à chaque fois, elle est sous-tendue, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mes livres, elle est sous-tendue par des critiques de certaines perspectives, qui soient religieuses, qui soient de valeurs sur la sexualité. Il y a vraiment toujours, et c'est ce qui la rend intéressante, c'est que la violence n'est jamais gratuite dans Game of Thrones, elle est toujours là pour questionner quelque chose. C'est ce qui fait que, à mon sens, c'est une des plus grandes séries de tous les temps, et qu'elle restera malgré cette fin qui a beaucoup, dont on ne parlera pas, mais qui a beaucoup traumatisé la communauté des fans.
Alors, en parlant de la fin, justement, sans la dévoiler, le grand final de Game of Thrones était diffusé un dimanche soir en 2019, si mes souvenirs sont bons, aux États-Unis. Selon un institut de sondage américain, 27,2 millions d'employés aux États-Unis déclaraient qu'ils n'iraient pas travailler le soir même, pour ceux qui travaillaient le dimanche, ou qu'ils arriveraient en retard le lendemain matin, seraient moins productifs ou partiraient plus tôt. On voit que les séries donc empiètent même sur la sphère travail. Je crois même qu'un employeur britannique avait offert un congé chaque lundi matin à ses employés pour qu'ils puissent veiller tardivement et regarder Game of Thrones. Clément Combes, est-ce que les séries sont une menace pour nos employeurs ?
Je dirais oui et non, et surtout non. En fait, effectivement, il y a des problèmes. Enfin, la question de l'addiction est régulièrement posée, et c'est une rhétorique qui revient dans les entretiens que j'ai pu mener avec des spectateurs, des amateurs, des sériephiles, une rhétorique de l'addiction qui est souvent surjouée. C'est-à-dire que, de la même manière que dans les années 90, on a récupéré le mot fanatique, fan, pour en faire autre chose, pour dire le goût, et voir le goût passionné. On est dans une rhétorique de la toxicomanie, on est addict, etc. Mais ça ne veut pas dire ce que ça devrait vouloir dire littéralement. Effectivement, il y a certaines personnes, mais qui sont, je dirais, en souffrance, en fait, psychologique, dans des moments de vie compliqués, puis qui peuvent tomber dans des formes toxiques de rapport aux séries télévisées. Mais c'est pas du tout... Il y a notamment toute une batterie de psy qui se sont intéressés, notamment qu'on fait un double colloque sur la question, et dont la réponse, les conclusions finales, il me semble, étaient non, on n'est pas là dans l'ordre de la toxicité. Donc, oui, on peut se faire happer, on peut se coucher à 1h du matin plutôt qu'à minuit, mais ça s'arrête là.
Alors on continue notre discussion dans quelques instants, mais avant, un autre générique de série que vous allez peut-être reconnaître. Un indice, c'est une série américaine dans laquelle on retrouve Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Shailene Woodley. Un générique signé Michael Kiwanuka. Did you ever want it? Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding, my cold. Écoutez 7 milliards de voisins sur RFI avec aujourd'hui une émission consacrée aux séries télé. Et la chanson qu'on vient d'entendre, c'est le générique de la série Big Little Lies, une série diffusée entre 2017 et 2019. Clément Combes, la consommation de séries a changé. On parlait tout à l'heure des gens qui attendaient un jour de diffusion précis pour regarder l'épisode suivant. Combien de personnes à peu près consomment toujours les séries télé de cette façon-là?
De façon
hebdomadaire, en attendant la sortie d'un épisode.
Alors, j'ai pas une réponse très claire à cette question, parce que on a posé la question donc à notre panel de 2500 personnes représentatives de la population française, métropolitaine, etc. En gros, on l'a posé sous cette forme: au cours des 6 derniers mois, quel type de rythme et de consommation vous avez? Et donc, avec une question multiple. Et là-dessus, 60% nous a dit suivre le rythme télévisuel, donc rester dans un rythme historique et traditionnel. Mais ça ne voulait pas dire que par ailleurs, ils n'avaient pas des consommations accélérées, voire du binge-watching. Mais globalement, on a encore une majorité de gens qui non seulement est attaché à la télévision comme support, comme écran, comme média, c'est-à-dire via le direct télé, et comme temporalité, en fait, comme rendez-vous médiatique. Ça, c'est encore la majorité des gens. En tout cas, ça l'était à l'été 2017, quand le questionnaire a été passé.
Alors, quelques messages Facebook de nos auditeurs que je vais vous lire. On a Edo qui nous dit « Ma série préférée, c'est 24 heures chrono. Elle nous a montré les dessous de cette religion planétaire qui est la politique et surtout celle des États-Unis. Elle nous montre également la cupidité, l'hypocrisie et la trahison de l'homme. » Ousmane de Thiès au Sénégal nous dit à peu près la même chose. Il nous parle de 24 heures chrono en disant « C'est vraiment exceptionnel, dit-il. Je la regarde seule sur mon ordinateur avec le casque aux oreilles. » D'ailleurs, ce n'est pas le seul à nous avoir parlé de cette série. Clément Combe, regarder une série seule sur son écran d'ordinateur, comme le fait Ousmane, est-ce que c'est de plus en plus courant ?
Oui, c'est de plus en plus courant. C'est le deuxième mode de consommation. C'est-à-dire que, bon, ce que je viens de dire, il y a une grande prévalence de la télévision encore, du téléviseur et de la télévision en direct. Et puis, notamment, majoritairement du côté des moins de 30 ans, l'ordinateur portable associé au lit ou au canapé-lit dans les chambres d'étudiants, par exemple, commence à tutoyer chez les moins de 30 ans ce mode de consommation historique et traditionnel qu'est la télévision dans le canapé du salon, par exemple.
Marianne Chaillon, vous qui êtes professeure au lycée et qui, je suppose, connaissez un petit peu les habitudes de consommation de séries de vos élèves, est-ce que vous constatez également que l'écran d'ordinateur est de plus en plus prégnant, quoique je crois que le téléphone portable et la tablette sont en passe de les dépasser.
Probablement, mais je dois vous avouer que quand je parle série avec mes élèves, ce qui est très fréquent, c'est pas par rapport à leur façon de consommer la série, mais par rapport à ce que ça a pu leur apporter, ce que ça peut nous apporter durant le cours de philosophie. Et c'est ça qui est extraordinaire avec ces phénomènes de série, c'est qu'on les a longtemps considérés comme des objets de divertissement inconsistants. Et vraiment, ce que je constate dans chacun de mes cours, c'est que regarder une série, c'est pas ça donner à une pratique de pur divertissement. Ça nourrit aussi la pensée. Ça permet à certaines problématiques morales. Tout à l'heure, votre auditeur Jules disait qu'il y avait des leçons de morale qu'il trouvait dans les séries de médecine ou policière, et il a raison. Les séries nous donnent à penser, et c'est ce qui explique, je pense, cet engouement. Que nous ressentons pour elle.
Donc c'est un bon support pédagogique pour un cours de philo.
Ah oui, là par exemple cette année, celle qui marche beaucoup auprès des élèves et qui leur a beaucoup donné à penser sur des thématiques d'éthique ou de sexualité, c'est la série Sex Education.
Oui. On va en parler effectivement tout à
d'accord.
l'heure. Alors on continue notre tour des séries qui ont le plus marqué nos auditeurs. Alors après Séoul, Westeros et Los Angeles avec 24 heures chrono, on part à New York prendre un cappuccino dans le plus célèbre café du monde.
Salut à tous.
Et alors, raconte comment ça s'est passé.
Oh, pas très fort. Il m'a emmené dans le métro et il a dit « Faudrait qu'on recommence ».
Oula.
Ah oui.
Quoi? Il a dit « Faudrait qu'on recommence », c'est bon signe, non?
Non, si tu lis entre les lignes « Faudrait qu'on recommence », ça veut plutôt dire « Je suis pas prête à recommencer
». Et ça existe depuis quand, ça?
Oh, depuis toujours, Rachel, c'est du langage de drague. C'est comme « c'est pas toi » veut dire « c'est toi ».
Ou bien « tu sais que t'es chouette comme type » veut dire « je vais sortir avec des alcoolos bardés de cuir et je vais leur dire que t'es venue de plein de dos près de moi
». Ou « tu sais, je crois qu'on devrait voir d'autres gens » veut dire « je le fais déjà, moi ».
Et tout le monde arrive à comprendre.
Mais oui, tout le monde arrive à comprendre.
Mais oui, c'est comme quand on est gamin et que les parents piquent le chien et qu'ils vous disent qu'ils l'ont envoyé vivre dans une ferme.
Non mais attendez, il faut quand même que je vous dise que nos parents ont réellement envoyé notre chien vivre dans une ferme.
Ross?
Oui? Oui, allô, la ferme des Milner au fin fond de la campagne. Les Milner, ils ont une ferme à tomber par terre. Oui, ils ont des chevaux et des lapins qu'ils pourchassent. Et puis il y a des... Oh mon chien, ils ont piqué Chichi.
La série Friends, bien sûr, une série qui traverse les générations aussi. Clément Combe n'est pas une série qui a été regardée uniquement entre 1994 et 2004.
Ouais, elle fait un peu exception de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'elle dans notre enquête qui donc date de 2017, elle est encore plébiscitée par les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait elle a été diffusée dans les années 90, début 2000, et elle a été multi-diffusée tout au long de ces années sur diverses chaînes françaises et sa mise à l'agenda de Netflix il y a quelques années lui a redonné comme une espèce de seconde jeunesse, sans parler de l'épisode, du dernier épisode qui a été projeté il y a quelque chose comme un an. Voilà, donc c'est une série qui, à plusieurs égards, est datée, notamment autour de... Enfin, il y a vraiment des problèmes d'homophobie, de grossophobie, de transphobie, et qui ne passerait plus dans une série contemporaine. Mais par ailleurs, elle met en scène des problématiques existentielles. Elle résonne encore chez... Bon, alors, évidemment, dans la génération des 40-50 ans qui ont grandi avec cette série, mais aussi, visiblement, parmi les plus jeunes.
Les nostalgiques et les nouvelles générations. Ouais. Marianne Chaillant, dans la série Friends, justement, en particulier, vous considérez-vous que c'est une série qui soulève des sujets encore d'actualité? Lesquels?
Oui, alors bon, déjà Friends évidemment nous montre l'importance de l'amitié, cet affect qui est souvent relégué au second plan derrière le sentiment amoureux. Dans Friends, on va aussi parler du désir, de ses joies, de ses contrariétés, de ses déceptions. Mais aussi dans Friends, c'est vrai, Clément a raison de dire que il y a parfois des moments qui sont borderline sur ces questions-là, mais quand même. Pour son époque, Friends a été progressiste sur des sujets d'éthique. Clément parlait d'homophobie. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même la première série qui a porté à l'écran un mariage homosexuel, lesbien. Et c'était bien. Et cette représentation d'un couple homosexuel a fait du bien, je pense. Phoebe fait une GPA. Quand la question de la GPA, la gestation pour autrui, est abordée dans la sphère publique, c'est toujours avec fracas, avec passion, avec déchirement. Friends nous a donné à voir cette GPA menée par Phoebe, tout en montrant les difficultés de ce processus, mais en montrant que c'est aussi et surtout un geste d'amour. Et donc, je crois que Friends a là aussi beaucoup de profondeur. Elle nous a aussi posé la question de qu'est-ce que c'est réussir sa vie avec le parcours de Rachel. Et vraiment, c'est une série qui ne dure pas sans raison.
Une série qui aborde aussi ces questions-là, ces questions de sexualité au sens large et dont vous parliez, Marianne Chaillant, c'est la série Sex Education. Alors, petite virée dans les toilettes désaffectées du lycée Mordale, là où le jeune Otis Milburn a planté son cabinet de thérapeute et prodigue des conseils intimes à ses camarades de classe.
Le truc, c'est que plus on essaie, moins ça marche. On n'est jamais synchrone, on n'arrive pas à trouver le bon rythme. Quand on fait l'amour, c'est comme si j'avais jamais vu de vagin avant, sauf que j'en ai déjà vu, puisque j'en ai un et que je le connais par cœur. J'en suis arrivée au point où dès que je pense que je vais devoir toucher aussi, je commence à paniquer parce que je sais que ça va être super nul. C'est comme quand t'essaies de monter une bibliothèque Ikea et que tu te rends compte que t'as loupé une étape et que t'as pas la bonne vis, et que t'as fait que perdre ton temps. Du coup, tu te mets à détester toute la Suède. Vas-y, Roussy, dis-lui comment c'est.
Non, et je sais même pas pourquoi on fait ça. C'est pas les conseils d'un gamin de 16 ans hétéro qui vont régler le problème comme par magie. C'est n'importe quoi.
C'est vrai, je comprends. T'as raison, Roussy. J'avoue que je suis pas un grand spécialiste des relations sexuelles entre lesbiennes, mais je crois que si je pouvais en savoir plus sur la relation qui vous unit sur le plan émotionnel, je serais capable de cerner un peu mieux le fond du problème.
Sauf qu'on n'a aucun problème dans notre relation. On s'aime toutes les deux, et c'est génial. C'est juste qu'on manque d'expérience.
C'est ma toute première relation en tant que lesbienne.
Oui, moi aussi. Enfin, je veux dire, ma première séance avec un couple de lesbiennes.
Bon, et t'as des idées, Freud ? Parce que j'aimerais bien avoir un orgasme avant la fin du siècle.
Cette série Sex Education, donc sortie en 2019, 3 saisons à son actif pour le moment, et elle dépeint le quotidien de lycéens qui, comme tous les adolescents, se questionnent sur leur sexualité et n'ont le choix pour y répondre que de se tourner vers le prof de SVT maladroit ou vers l'industrie pornographique évidemment qui inonde leurs écrans. Mais par chance, l'un de leurs camarades, fils d'une sexologue, thérapeute et surtout doué d'une très grande empathie, décide de leur venir en aide. Clément Combes, cette série, on suppose qu'elle s'adresse principalement aux adolescents. Est-ce qu'elle a réussi son pari?
J'ai l'impression. Et puis elle est exigeante de ce point de vue-là. Alors après, est-ce que pour le coup, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas interrogé des gens sur cette série en particulier qui est plus récente, mais je pense qu'elle transcende les générations. Elle dépasse le seul cadre. Enfin, moi, le premier, je l'ai vu et je la regarde avec un grand plaisir, une grande délectation. Et elle me fascine par. Oui, à la fois, enfin, cette exigence et cette capacité à aller loin, en fait, dans le fait d'aborder des sujets qui sont compliqués, qui sont voire tabous à la télévision.
Oui, c'est vrai que c'est une série donc, qui parle aux ados, mais pas que, mais en les prenant vraiment pour des adultes avec des mots directs, sans tourner autour du pot et toujours avec une certaine bienveillance. Marianne Chaillant, vous qui êtes donc professeure de philo, vous nous parliez tout à l'heure de l'engouement de vos élèves pour cette série. Comment est-ce qu'ils vous en parlent et comment est-ce que vous l'analyseriez ?
C'est à l'occasion, c'est toujours à l'occasion d'un cours de philosophie assez classique hein, que la série émerge comme un exemple en fait concret de théorie plutôt abstraite. Et ce qui a beaucoup plu à mes élèves, il y a beaucoup de choses vraiment dans cette série, mais on sait qu'on a parlé ensemble de, encore une fois, de ce pouvoir qu'ont les séries de représenter des choses un peu taboues dont on ne parle pas et qui sont essentielles pour les personnes dont ça parle. Par exemple, il y a une scène qui est importante dans la série où Maeve, l'héroïne, a une relation sexuelle avec une personne handicapée. Et ça aussi fait beaucoup de bien de montrer cette représentation-là. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Adam et qui, au début de la série, est extrêmement brutal, homophobe, et qui va cheminer, on trahit rien, ça arrive assez vite, mais vers l'acceptation de sa propre sexualité comme homosexuelle. Et c'est très intéressant de voir les étapes par lesquelles il passe. Mais là où on a beaucoup ri avec les élèves, c'est une polémique, je sais pas si elle est arrivée jusqu'à vos auditeurs, mais récemment en France, une personnalité qui intervient dans la télé-réalité, qui s'appelle Maëva Guénam, a suscité l'indignation parce qu'elle a, elle a témoigné sur les réseaux sociaux d'opérations esthétiques.
C'est une personnalité de la...
Voilà, exactement.
Une personnalité de la télé-réalité.
Voilà, c'est ça, j'enseigne à Marseille, mes élèves suivent évidemment parfois les Marseillais, mais même sans les suivre, ils connaissent. Et pour ceux de vos auditeurs qui savent pas, mais c'est terrible parce que avec cette intervention, cette héroïne de télé-réalité a complexé énormément de jeunes filles sur l'esthétique de leur partie intime.
Parce qu'elle a un pouvoir d'influence.
Et heureusement, sex-éducation. Oui, bien sûr, énorme. Et heureusement, sex-éducation est arrivée, puisque la même thématique est abordée dans la série, à travers le personnage de Aimé, qui va voir la fameuse psychanalyste dont vous avez parlé, et celle-ci lui explique que voilà, il y a pas de normes, et que chaque partie intime, si je puis dire, est belle. Et le personnage de Aimé, qui était complexé au départ, finit par elle aussi apprendre à chacune de ses copines de lycée à être fière de ce qu'elles sont, à s'accepter dans leur propre corps. Et c'était très intéressant comme scène, parce que ça faisait contrepoint à un débat d'actualité qui avait lieu dans les médias.
Alors, on va faire un dernier voyage avant de clore cette émission. Il se poursuit en Espagne. Marianne Chaillant, si je vous dis Tokyo, Moscou, Lisbonne, Rio, Nairobi, Helsinki, vous me répondez ?
La Casa de Papel.
Exactement.
Mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
De la terre!
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao.
Qu'est-ce qui se passe?
Bravi via!
Qu'est-ce qui se passe?
La Casa des Papels, une série plébiscitée par plusieurs d'entre vous également au vu des messages que vous nous avez envoyés sur Facebook. Alors comment on pourrait résumer ça? Une bande de malfaiteurs qui n'ont plus rien à perdre et qui se retrouvent embarqués tous ensemble dans un des plus gros casses de l'histoire. Ils vont infiltrer la fabrique de la monnaie en Espagne et imprimer en petites coupures leur argent qu'il faut ensuite faire sortir du bâtiment. Tout ça avec prise d'otage et la police qui cerne le bâtiment sans réussir à y pénétrer. De la terre, on entend parce qu'ils ont réussi à percer un trou pour pouvoir faire évacuer l'argent. Marianne Chaillant, vous vous êtes demandé avec vos élèves pourquoi est-ce qu'on est du côté des voleurs? C'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les séries. On a tendance à s'attacher aux méchants. Comment ça se fait?
Oui, et à cette bande de Robin des Bois, en fait, parce que là,
c'est par
rapport
pas,
à d'autres séries où on
s'attache. Vraiment méchants.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des méchants auxquels on n'arrive pas à ne pas s'attacher. Mais là, en l'occurrence, est-ce qu'ils sont vraiment méchants? C'est ça la question qu'on s'est posée. C'est-à-dire que oui, ils volent. Oui, ils volent la Banque de la Monnaie. Ils ne volent personne. Ils volent l'État, à la limite. Et encore, il y a cette scène extraordinaire où le professeur prend un billet devant la policière chargée de le traquer et lui dit « Mais est-ce que je suis vraiment un voleur? C'est du papier !» Et il y a une vraie réflexion sur qui sont les... Qu'est-ce qu'une action immorale? Est-ce que cet acte est vraiment immoral? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'action politique qui sont, elles, plutôt immorales? Et donc, oui, c'est du divertissement, encore une fois, bien sûr. Mais au-delà, il y a encore une fois, je crois, des leçons à tirer et qui rendent ce visionnage tout à fait instructif.
C'est une série qui est devenue très symbolique. On voit à plusieurs occasions, notamment dans les manifestations, des gens se réapproprier le costume, le masque de Dali, la combinaison rouge, et puis la chanson Bella Ciao qu'on entend, qui a été de plus en plus écoutée après la série. Clément Combe, tout à l'heure, vous disiez que La Casa des Papel, en revanche, a de moins en moins de succès. Pourquoi ?
Je ne dis pas qu'elle a de moins en moins de succès. Je dis qu'elle est, elle a eu un effet de nouveauté. On en a énormément parlé. Ça a été un peu la tête d'affiche à la suite de Game of Thrones. Là, elle est, je ne sais plus, à sa cinquième saison. Elle s'est peut-être un peu essoufflée.
Cinquième partie, oui. C'est deux saisons divisées en plusieurs parties. Et donc, c'est parce que ça s'étale. On perd les téléspectateurs à force de...
Je n'ai pas de chiffres... De ce point de vue-là, ça serait pas étonnant qu'ils aient perdu un petit peu d'audience. Moi, le premier, j'ai dû m'arrêter à la troisième saison. Mais non, je pense qu'elle est, elle a encore du succès, elle le mérite. Mais à un moment donné, il y a des effets d'agenda, des besoins de renouvellement, médiatique. Donc, on doit s'attacher à d'autres séries. C'est juste ce que je voulais dire tout à l'heure.
Avant de vous dire au revoir à tous les deux, j'aimerais vous demander une recommandation peut-être pour nos auditeurs. Si vous deviez nous citer une série chacun que vous recommanderiez, Marianne ?
En premier, en plus, quelle difficulté. Alors, il y a une série que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle « Years and Years ». Qui est une série en très peu d'épisodes, donc très facile à regarder en termes de temps, mais très dure, très éprouvante pour un peu, qui fait peur sur un futur possiblement proche pour chacun de nous, qui aborde des questions à la fois climatiques, éthiques, politiques, c'est économique, c'est très intéressant, très instructif, divertissante, passionnante.
Et vous, Clément Combe ?
Pour sortir un peu des séries un peu classiques, Breaking Bad, The Wire, etc. Moi, il y a une série qui est passée assez inaperçue en France et qui commence à dater, qui s'appelle Friday Night Lights, qui est une série américaine qui se situe très réaliste, qui se situe dans le Texas profond, qui prend corps autour du football américain, mais en fait, ça n'est qu'une porte d'entrée pour investir un univers rural, néo-rural américain. Et cette série m'a vraiment transporté et m'a permis de comprendre aussi pas mal de la culture américaine hors des grandes métropoles.
Vous avez fait aussi une étude dans cette enquête sur les goûts des séries. Est-ce qu'on pourrait les définir en fonction d'une classe sociale ou plutôt d'une classe d'âge ?
Eh ben, les deux, mon capitaine. ma capitaine. La principale variable qui entre en compte dans la manière dont dans ce qu'on va consommer, c'est l'âge. Il y a vraiment un effet générationnel, un moment générationnel, et qui est recoupé par une position socioculturelle, pour le dire vite, par un niveau de diplôme. Et donc, il y a effectivement une différenciation des consommations et des goûts en fonction et de notre âge, de notre génération et de notre niveau de diplôme qui nous amène à avoir des attentes différentes en matière de série.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Marianne Chaillon, professeure de philosophie à Marseille, et Clément Combe, sociologue, co-auteur de Série, enquête sur les pratiques et les goûts des Français pour les séries télévisées parues aux éditions Presse des Mines. Merci. Et 7 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Juliette Bro, Elsa Olaizola, David Brocois et Didier Cherouz d'avoir préparé et réalisé cette émission. Demain, nous consacrons une émission au harcèlement à l'école, au cyberharcèlement et à la phobie scolaire. Ces phénomènes qui empoisonnent les adolescents et peuvent conduire au suicide. Appelez-nous dès maintenant pour témoigner. Nous serons en studio avec une psychologue qui pourra répondre à vos questions. Le numéro WhatsApp, c'est le 337 64 45 51 41. À demain, vendredi, même heure, sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.